On va continuer immédiatement avec une communication de Laurent, donc Laurent Grün, professeur agrégé donc en STAPS à Metz, hein, je ne dis pas de bêtises. Voilà, bon, très bien. Ses recherches portent sur l'histoire des entraîneurs et de l'entraînement en milieu sportif, mais également sur le corps hein, et ses usages en musique et en BD, hein, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Très bien. Et donc, nous allons maintenant écouter une communication dont nous voyons le titre ici, intitulée « Questionner les idéologies punk » au regard du concept de génération. On t'écoute immédiatement.
D'accord. Du coup, j'ai un peu triché avec le titre initial, tout simplement parce que je devais proposer cette communication à la journée idéologie. Je ne suis pas venu et je n'ai pas fait l'effort de réécouter les audios. Et en plus, au vu de ce qui a été dit par Luc et Solveig, il me semble que c'était tellement riche que je ne suis pas sûr que j'aurais réussi à cerner très bien ce concept d'idéologie. Donc du coup, je suis parti plutôt sur l'idée de valeur et on va voir pourquoi. Donc simplement quelques définitions pour commencer, pour cerner l'objet. Alors le concept de génération en histoire sociologie fait presque l'unanimité contre lui. Nous, on l'emploie quand même dans PIN. Pourquoi il fait l'unanimité ? Parce qu'en fait, il appartient tellement au langage courant que c'est un petit peu, toute proportion gardée, comme punk, c'est difficile à cerner. Alors, en histoire, les générations sont souvent évaluées à 30 ans, une durée de 30 ans, c'est une génération, mais ça peut, hein, quand ça se rapporte à des modes, à des idées, se réduire à une décennie, c'est-à-dire 10 ans. Et en fait, il y a eu des tentatives pour essayer de donner une cohérence à l'histoire en se basant sur des réalités biologiques. Ça n'a jamais été pertinent. Donc, la notion de génération, c'est bien une création sociale. Pourquoi je suis parti sur la notion de valeur pour cerner ces générations ? Il me semblait que, étant tombé sur un article de Shalom Schwartz, il me semblait qu'il y avait des indicateurs précis. Shalom Schwartz a, dans cet article de 2006, déterminé 10 valeurs. Pour faire très simple, j'adhérais totalement à cette définition. C'est quoi une valeur ? C'est ce qui nous semble important dans la vie. Donc ça, de ce côté-là, je pense que niveau compréhension, ça va aller. Je m'en suis sorti avec ça. Alors, quelles sont les 10 valeurs définies par Shalom Schwartz ? L'autonomie, la stimulation, l'hédonisme, la tradition, la bienveillance, l'universalisme, qu'on peut traduire comme justice sociale, hein, égalité si vous voulez, et voire équité. Et 4 autres valeurs que moi j'ai décidé de ne pas retenir. Celle en rouge me semblait conforme aux idéaux du punk en général, hein, la plupart du temps. Et les 4 autres me semblaient pas répondre aux idéaux du punk. Donc, les 4 autres, la réussite. Alors, Shalom Schwartz déterminait la réussite en termes de réussite financière, même si on peut penser que dans le punk, la réussite, elle est peut-être alternative. Hein, réussir à monter son groupe, réussir à partager un mode de vie, des instants. Le pouvoir. De la même façon, bah, je me suis dit que l'opposition dans le milieu punk, c'est le refus assumé du mercantilisme. Je ne veux pas profiter, faire du fric. La sécurité. Alors, sécurité, c'est à la fois la précarité assumée, même si j'aurais pu creuser le concept de sécurité affective, si vous voulez. Je me sens en sécurité dans mon microcosme ou dans le milieu dans lequel j'évolue. Et enfin, la conformité, parce qu'il me semble qu'être punk, c'est justement disposer d'un libre arbitre. Hein, je fais comme j'ai envie, même si ça peut être redondant avec l'autonomie, ça, je ne l'ai pas creusé. Alors, toujours pour creuser ce concept de génération, selon Gérard Mauger, la notion de génération est solidaire de la notion de mode de reproduction. Donc c'est quoi la reproduction ? C'est transmettre. C'est une transmission intergénérationnelle, hein, de différents types de capitaux. Capital économique, on vient de voir que dans le punk, bah, souvent il n'y en avait pas. Capital culturel, ça par contre, sans doute qu'il y en a. Je parle des groupes français, hein. La plupart du temps, je ne vous évoque pas les Green Day et autres dinosaures américains. Capital social, hein, on a parlé de milieu, et capital symbolique. Donc, vous allez voir qu'en vert, souvent, je pose beaucoup de questions, et le titre de ma... Pour une fois, un des termes, je pense, de mon titre est bien choisi, c'est questionner. Questionner, ça veut dire que je ne vais pas forcément vous apporter des réponses. Donc, dans le punk, qu'est-ce qui est transmis d'une génération à une autre ? Si tant est qu'il y a des choses de transmises, ou des valeurs plutôt de transmises. D'après moi, ça pourrait être le capital économique, en tout cas, le fait d'assumer, de ne pas disposer de capital économique. Ça pourrait être une transmission de capital culturel, et notamment par la musique, puisque c'est quand même autour de ce qui est central dans nos études. Le social, le do it together, c'était un concept que Manu avait évoqué il y a quelques années en com, et puis d'autres aussi. Et puis le symbolique. On va voir entre le do it yourself et l'anarchisme ce qu'on peut entrevoir par là. Ma problématique à moi, et je peux pas y répondre de façon affirmative, même s'il y a des pistes, on va voir, y a-t-il une continuité intergénérationnelle dans la transmission de valeurs propres au punk ? En d'autres termes, on peut le décliner en deux autres questions. Est-ce que, premièrement, les anciennes générations ont la volonté de transmettre un patrimoine, parfois la conscience, ou est-ce que parfois le transmettre de façon inconsciente ou un héritage? Et puis, est-ce que des générations plus récentes, Luc évoquait le cas de Bordeaux ce matin, ont la volonté de réceptionner un patrimoine ou un type de patrimoine ou cet héritage? Je prendrai quelques exemples concrets après. Alors, au niveau méthodologique, je ne suis pas aussi affiné que, par exemple, Samuel ce matin, mais disons que je me suis basé justement sur les audios, et donc je remercie Dominique d'alimenter le site régulièrement. J'ai pris plusieurs... uniquement les tables rondes, hein. Vous voyez la liste ici, c'est pas exhaustif, mais j'ai écouté toutes les tables rondes en partant du postulat que c'est là où on risquait peut-être d'avoir le plus de débats, même si avec Audrey ce matin on a évoqué que à Montbéliard, par exemple, il n'y a pas eu de débat, c'était plutôt lisse. Hein. J'ai aussi repris quelques interventions les tables rondes, pardon. Délocalisées et puis les tables rondes de quelques thématiques. Je me suis basé sur les entretiens avec des musiciens de la scène messine de Vindel d'Embé parce que c'est un groupe multigénérationnel. Il y a un trentenaire, un quadragénaire, un quinquagénaire et un sexagénaire dans le groupe, donc c'est plutôt bien pour interroger. Nafi qui est représentatif parce qu'il a la croisée de dizaines de groupes messins. Il joue dans plein de projets. Et puis Caps qui est qui détient le label Combaroc à Metz, qui a fait plusieurs groupes, dont PKRK, Charge 69, et ainsi de suite. Alors, ma méthodologie, elle est empirique. Alors, notamment, j'aurais pu définir des critères précis, hein, partir sur les 6 valeurs. Il y a un logiciel dont j'ai plus pas le nom, mais je sais que certains collègues en sciences sociales l'utilisent, qui permet par PDF d'analyser la terminologie, il repère les termes terminologie, il lui associe des mots et il repart là-dessus. Moi, j'aurais pu écouter tous les discours, dire ah, tiens, à chaque fois que le mot réussite apparaît, paf, je note la phrase. À chaque fois que le mot pouvoir apparaît, hop, je note et ainsi de suite et je croise tout. Pour l'instant, j'en suis pas là. Hein. C'était plus empirique. J'ai sélectionné ce qui me paraissait relever des valeurs que j'ai sélectionnées. Alors, des questions sans forcément de réponse. Est-ce que la transmission intergénération dans le punk se limite à des valeurs? Notamment quand il n'y a pas de capital économique, comment on fait pour transmettre? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Qu'est-ce qui est transmissible aussi? C'est ma deuxième question. Est-ce que tout peut se transmettre? Est-ce qu'une tradition se transmet? On a parlé du pogo ce matin, j'y reviendrai. Quel type de transmission? Est-ce que c'est uniquement la musique qu'on transmet? Est-ce que c'est l'état d'esprit de Y? Est-ce que c'est la danse, le rapport au corps, le rapport à la drogue, et ainsi de suite? Hein, je prends l'exemple que Luc a évoqué ce matin. Des nouveaux principes à Bordeaux, pas de pogo, pas de clope, ou un pogo respectueux, bienveillant, eh bien ça heurte effectivement la tradition et puis la volonté de transmission de cette énergie communiquée par des générations plus anciennes. Vous avez vu le reportage qui vient de passer sur le concert des Berrues. Effectivement, comment interdire ce pogo? Donc voilà, là on est sur une logique de bienveillance, mais est-ce que cette bienveillance c'est la même que celle qui régnait dans les années 70 ou 80? Pas forcément. À nouveau, est-ce qu'il y a vraiment une transmission d'une génération à l'autre ou plutôt une transmission à l'intérieur d'une unité de génération? Alors, je reviendrai sur ce concept d'unité à la fin si j'ai un peu de temps. Est-ce qu'il y a un vrai partage intergénérationnel ou seulement dans des unités de génération? Alors, j'aurais dû commencer par ça, mais c'est un peu chiant les unités, donc j'y reviendrai à la fin. Donc en gros, une unité, c'est un petit groupe uni par les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, les mêmes codes. À Caen, au Nicléon, par exemple, les jeunes côtoient les anciens. C'est un témoignage d'une table ronde. Il y a des liens générationnels qui se tissent. Et donc, on a des vraies valeurs de partage. Par contre, si on écoute toujours le témoignage à Caen, les anciens disent « nous, le punk, c'était nous. » Puis ceux qui viennent après, ça ne nous intéresse plus. Et donc, sur la même table ronde et la même scène, on a deux perceptions différentes de ce qu'est cette transmission. De la même façon, Simon Leroulet lui-même dit, bah, tiens, nous, on était contents d'avoir des anciens pour avoir cette transmission. Ils nous ont accueillis, ils nous ont transmis. Mais nous, après, en fait, on ne l'a pas fait avec les autres. Alors, il explique par diverses raisons, hein, j'y reviendrai pas. Mais ça ne s'est pas opéré. Nafi Ames revient sur quelque chose que j'ai vu ailleurs. Le punk à Metz, ça s'est transmis grâce à un local de répète qui fait 8 mètres carrés, c'est un bunker, il n'y a pas de fenêtre. Un mec te file la clé pour que tu répètes en douce, et puis au bout de quelques mois ou 2-3 ans, tu es là, et puis finalement, tu récupères ta propre clé plutôt que de la rendre, et puis tu fais partie de ça, et tout le monde le sait, tout le monde est au courant, et la génération, elle se fait aussi grâce au local. Montpellier, il y avait ça aussi, hein, je ne l'ai pas souligné. Pareil, les Fallen Lilies à Montbéliard, ça me permet de rebondir sur le fait qu'en présentant la journée de Montbéliard ce matin, les bons copains du coin m'ont dit que j'avais oublié Philippe Gonin dans l'organisation. Je m'en excuse auprès de lui, puisqu'il y était. Voilà, c'était un petit peu insidieux vos remarques, bande de blaireaux, mais bon, je rebondis. J'ai compris le message, ok, il n'y avait pas que Audrey et moi. Donc les Fallen Lilies que j'ai interrogées durant la journée et ensuite quand c'est repassé à la messe la semaine dernière, elles m'ont bien confirmé, parce que j'ai insisté là-dessus, est-ce que c'est vous qui vous êtes imposé dans l'atelier des mots, est-ce que vous avez dit ouais mais stop, laissez-nous la place, ou est-ce que les anciens vous ont dit ah bah venez, les anciens leur ont bien dit venez, on vous fait la place, prenez en main, prenez la prog en main, faites tourner la scène, ainsi de suite. Donc il y a une vraie transmission, un vrai partage. Si on revient toujours sur ce qui s'est passé à Nantes, François Bégodeau nous dit ben en fait dans les années 90 finalement il y a des clivages politiques entre les groupes, des inimitiés, ce que parfois on évoque, alors des fois c'est la légende, hein, je vois rive droite rive gauche à Bordeaux, je me demande si à Caen ça n'a pas été évoqué, à Rouen, Christophe tu confirmeras, c'était à Rouen, et donc la notion de partage finalement elle est peut-être pas si nette que ça. Pareil, des amitiés entre personnes qui sont séparées dans l'espace. Des fois, on est invité à jouer par des gens qu'on connaît pas. Exemple, à Metz, Nafi dit ben voilà, un mec m'appelle de Albi, me dit tiens, on m'a donné ton nom, tiens, ramène-toi, on t'héberge, tu vas jouer. Bon, voilà, ce partage, il se fait aussi par réseau, par amitié, par filiation. Donc, certains comme à la table de ronde, à la table de Nantes, j'ai pas noté le nom, disent ce qui nous lie, c'est pas forcément la musique, ce qui nous lie, c'est plus le partage, la notion de partager. Quelque chose à questionner aussi. François Bégodeau, toujours dans la notion de partage, dit « Ouais, c'est compliqué d'être disponible aux nouveaux groupes qui arrivent. Ça demande un vrai travail sur soi. On est disponible pour ceux qu'on connaît déjà. On est disponible pour ceux qu'on fréquente. Mais est-ce que des mecs qui arrivent, qui ne jouent pas forcément, qui sont peut-être discrets, ou des filles, qui ne vous sollicitent pas forcément, on est aussi disponible ? Ça ne va pas de soi, effectivement, c'est ce qu'il dit. Donc les lieux, j'y reviens rapidement, hein, le Terminal Export c'était à Nancy, créer du lien et du partage, voilà, la bienveillance. Le mot partage, il revient souvent. Alors si j'avais analysé dans les valeurs, je le mettrais en relation avec plusieurs des items, mais je pense que ça revient souvent dans les tables rondes, et ça c'est un des mots, si je fais une analyse sonique, tiens là, pareil l'atelier des mots ici. Les valeurs partagées, ça c'est une question, est-ce qu'elles ne conduisent pas, à contrario, à l'exclusion ? C'est-à-dire ce qui nous permet de mettre en tension partage et bienveillance, c'est-à-dire que, ouais, on partage, mais est-ce qu'on ne partage pas trop à l'intérieur d'un microcosme ? Comment on fait pour accueillir des nouveaux qui arrivent, qui ne sont pas encore de la scène ? Est-ce qu'on ne leur ferme pas, nous, j'ai employé le mot insidieux pour mes camarades du fond, insidieusement la porte, sans le vouloir, sans en être conscient, hein ? À Bordeaux... Alors malheureusement, je n'ai pas pu disposer des audios de Bordeaux parce qu'on n'avait pas les autorisations de cette fameuse table ronde que j'avais adorée parce qu'elle était animée. Et je pense que ça, c'était la plus riche, mais j'ai dû prendre que mes notes et j'en ai pas assez. Donc dans la scène actuelle, ben, certains dénoncent une hiérarchie, il y a une violence. Ça, c'était, je pense, plutôt du côté jeune. Alors, tu confirmeras peut-être, Manu. Tu nuanceras. Dans la table ronde, fais-la toi-même, certains se rendent compte dans l'auto-analyse que c'est tellement la famille, finalement, on est tellement entre soi, c'est l'entre-soi, c'est dur de faire rentrer des personnes extérieures. Chose qu'on retrouve dans le domaine du sport, par exemple, aussi. Hein. En fait, quand t'es coopté par le collectif, t'es exclusif. Hein, et puis, si t'as pas les codes et les références musicales, ben, finalement, t'es pas coopté. Et certains groupes grandissent aussi. Alors il y a ce problème-là qui vient du côté de ce que j'appellerais moi les fans, en tout cas ceux qui suivent. Il y a des intégristes qui voient leur ancien petit groupe leur échapper au début. Alors ça a été démontré par certains sociologues. Il y a un petit culte du groupe qu'on adore adorer, mais c'est un petit peu notre objet mythique. Et c'est compliqué de lâcher cet objet de culte mythique et puis de le partager avec d'autres. Si je reviens sur Toulouse, des phénomènes de normalisation d'exclusion aussi, hein, je suis un petit peu... un petit peu sur la même logique, on interdit, on n'interdit pas, mais on ne favorise pas l'entrée à des lieux censés accueillir tout le monde, finalement, à tous. Hein. Et puis dans El Pogot, ma banlieue, un témoignage des anciens, notamment la guerre, vraiment la guerre, c'est un témoignage, alors lequel était-ce, des acteurs, entre Harry Cover et l'Open Market, où apparemment, je ne sais pas s'ils en venaient vraiment aux mains, mais en tout cas... Est-ce que qui a témoigné ça, j'aurais dû le noter. Mais en tout cas, on voit que la bienveillance, elle est toujours relative. Donc, ça renvoie aussi aux normes de conformité de Shalom Schwartz. Hein. La conformité aux normes sociales d'un groupe, bah non, le punk n'est pas conforme aux normes sociales. Par contre, il peut être conforme aux normes édictées par son propre groupe d'appartenance. Ça me fait revenir sur des questions auxquelles je tenterai de répondre cette fois-ci quand je rédigerai. Est-ce que les valeurs choisies ou privilégiées sont les mêmes d'une génération à une autre ? Selon les lieux, oui, et dans d'autres lieux, non, pas du tout. Est-ce qu'il y a vraiment une filiation dans les générations ? Selon certains lieux, oui, selon certains autres, non. Si je questionne Marine des Fallen Lilies, elle me dit « Ouais, l'atelier des Mauls, oui, on a une... » Je dis « Mais toi-même, est-ce que tu transmets à des jeunes groupes ?» Eh ben pour l'instant, non, mais parce qu'il n'y en a pas des groupes, mais est-ce qu'elles en cherchent ? Donc, je parlerai de toi après, tais-toi. Des jeunes groupes à Montbéliard, à l'atelier des Mauls. Suis. Espèce de gros blaireau. Ouais. Donc, non, mais sans déconner, mais Michel, étaye quand tu fais. Donc, au contraire, est-ce que les deuxièmes générations ne veulent pas se libérer d'un héritage ? On l'a vu peut-être à Bordeaux, qui est peut-être trop pesant. Est-ce qu'il y a une volonté de la part des générations anciennes de transmettre cet héritage ? Bon, ça, je l'ai déjà dit. Hein. Et est-ce que les générations plus jeunes perçoivent une coercition, une emprise dont elles voudraient se libérer par les générations plus anciennes, dont certains, en tout cas, les anciennes générations le disent peut-être pas comme ça, mais peut-être que les jeunes perçoivent le « ouais, nous, on a inventé le punk, et après nous, c'est plus pareil ». Mais on retrouve évidemment l'inverse aussi, hein, forcément. Donc, le partage, oui, mais plutôt je le conçois dans les unités de génération, j'y reviendrai tout à l'heure. Hein. Ce qui me semble approprié, j'ai peut-être été trop long, c'est aussi la stimulation, avoir une vie intéressante, aimer ce que je fais. L'hédonisme, avoir du plaisir à ce que je fais, je pense que les deux valeurs se rejoignent. Le libre arbitre, ben, on décide de faire comme on veut. On n'est pas obligé d'avoir les pouvoirs publics, d'avoir des subventions. On peut fonctionner de façon alternative. Donc, ce qui revient au Val d'Ajol, par exemple, j'ai plus le nom de cet acteur, pouvoir changer la société d'une manière saine, drôle, dansante, festive, sans se foutre sur la gueule. Ben, effectivement, je pense qu'il y a pas mal de nous qui s'y retrouvent là-dedans. Ok, bah peut-être pas toi, j'ai dit pas mal, j'ai pas dit tout le monde. Selon Nafi, l'idée principale du punk, c'est fais ce que tu veux. Je rabâche des chemins battus. La photo ici est intéressante. On organise des concerts sous le pont de l'autoroute à 31. On a besoin de personne. Et simplement, les mecs, ils savent qu'on joue et on y va. Pour revenir ici... Je pense que je suis un peu long, hein. Je vais zapper vite fait, je vais revenir sur le mercantilisme et sur deux diapos. Selon François Bégodeau et beaucoup d'autres acteurs, si on fait du punk en France, hein, je ne parle pas de Green Day, de Blink-182, etc., on fait du punk en France, on s'attend à pas avoir de réussite financière. On le sait, on s'y attend. L'amateurisme, c'est revendiqué, et selon Bégodeau, c'est même une subversion politique. Et selon Bégodeau toujours, culture punk et culture anarchiste sont indissociables. Ça, c'est un mec de sa génération qui le dit. Peut-être que les autres générations, c'est peut-être, on pourrait remplacer anarchisme par alternative, altermondialisme, d'autres termes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas dans le courant mainstream. Alors, toujours autour des valeurs partagées, la question de l'anticapitalisme, je vais vite, la question de la bouffe aussi. À Lyon, ce qui m'intéressait, c'est l'engagement ici. Adolescent dans le punk, Une actrice témoin, une actrice très engagée qui avait 50 balais, elle me dit, l'engagement ado, c'est superficiel, souvent la musique, l'énergie, être avec les potes. Et c'est seulement après, quand tu prends le package punk, pas forcément 10 ans plus tard, mais après, t'analyses, t'adhères au côté politique de la chose. Ça peut être nuancé par d'autres, peut-être que certains l'ont initialement. Mais en tout cas, il y a ce type de témoignage. Il y a un mec qu'on connaît, donc Michel Catu, qui a dit, quelqu'un qui est punk est forcément anarchiste. Alors, si tu te contredis, t'as le droit, mais tu l'as dit à Poitiers. OK. Et donc l'autre, c'est la carotte et le bâton. Je peux être dur avec toi, je peux te citer quand même. J'ai vite rajouté une petite ligne, vite fait, avec ma main droite qui est totalement indépendante du cerveau gauche. Donc, ça le calme comme ça. À travers ces propos, je renvoie aux valeurs d'autonomie, de libre-arbitre, de justice sociale. Et alors celle-là, je l'adore, mais punaise, il faut que je réécoute à Poitiers qui a dit ça. Être punk, c'est agir. Si on ne fait rien, on ne fait rien. C'est puissant, je trouve. J'ai trouvé ça hyper puissant, je dis ça, il faut que je la mette. Mais globalement, donc, sous-entendu, si on est punk, on agit, quoi, les gars. On fait quelque chose, on se bouge. Alors juste... Je termine sur le refus du mercantilisme. Il y a deux anecdotes qui m'ont bien fait rigoler. Le premier, c'est The Dreams, c'est un des multiples projets de Nafi. Il me dit, ouais, moi sur Discogs, je fais la charge. Quand je vois Scorpion Hollande, le Dreams, on a fait 500 exemplaires. Et maintenant, c'est 70 euros sur Discogs. Quand je suis bourré, j'appelle le mec, j'insulte les mecs, je les traite de tous les noms et tout. Et du coup, il y a Tungsten à Bordeaux qui m'a offert. Il m'a offert ça parce que je vais le voir. Après, je dis, mais c'est génial ce que tu as fait. Il dit, ouais, au Japon, il a sorti ça, mais comme il n'y avait que 1000 exemplaires, maintenant il a 380 euros. Donc, nous, pour contrer le truc, on a tiré 3000 exemplaires, on l'a autoproduit, puis on le remet sur le marché. Je dis, mais putain, c'est génial ça. Et du coup, j'en ai hérité d'un, ce qu'il y a en photo là. Donc, je vais le mettre aux enchères. Il est à 90 euros pour l'instant. Non, je déconne. Je le garde précieusement. Donc, on va revenir sur... je vais essayer de conclure vite. C'est quoi le moteur? C'était la passion. Voilà. Hein, on a l'hédonisme. En 80, l'esprit punk, c'était aussi tous dans les squats. Ceux qui réussissaient, d'ailleurs, c'était pas bien. Dans le milieu punk, finalement, la réussite... Alors, peut-être qu'il y en a d'autres, je vois François ou d'autres qui pourront témoigner, que la réussite, ça peut susciter quelques rancœurs. Je pense à la Mano, notamment, hein, ceux qui signaient sur des gros labels. En général, voilà... On a dans ces valeurs les concerts des Bérus, par exemple, si je reviens aux années 80, à prix réduit, avec en partie grâce à un service d'ordre personnel qui nous permet d'accéder au prix libre actuel, hein, qui est aussi un moyen de partager, de pas être mercantile, mais de subsister quand même et de diffuser. Juste quelques précisions, mais ça, je vais aller très vite. Une génération, un ensemble de personnes qui ont des expériences historiques communes. On peut les découper en unités de génération, ça me semble peut-être plus utilisable pour nous dans l'étude du punk. Des unités de génération qui s'opposent des sous-ensembles. Unité de génération, on va schématiser un baba cool sur les années 70 et puis punk naissant par exemple, ou rock et teddy, enfin ce que vous voulez. Ça me semble plus concret. Ce qui me semble bien aussi, c'est qu'elles sont portées par les leaders actifs qui sont des porte-parole. Alors est-ce qu'on peut... appliquer ces unités de génération au punk, il me semble que oui. Mais elle pose quand même problème, surtout maintenant, avec les sous-unités. Le punk, on l'a dit, c'est pas un ensemble homogène. Il y a des styles musicaux de plus en plus divers, des familles musicales, des scènes locales, des réseaux. Alors, même dans les unités de génération, est-ce qu'il y a des vraies valeurs qui sont partagées? Et puis je pose quelques questions sur lesquelles moi j'aimerais bien explorer. Alors moi j'identifie quelques leaders actifs et porte-parole de la première génération. Star Shooter, Asphalt Jungle, Metal Urbain, vous remarquerez que j'ai pas mis Bijoux dedans, qui était pourtant un de mes groupes préférés. Dans la deuxième génération, les Bérus et d'autres, oui, c'est des leaders forcément, des porte-parole. Dans la troisième génération, vous me direz peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, moi personnellement, j'ai plus de mal à identifier des vrais leaders et des vrais porte-parole actifs, en tout cas aussi visibles, parce que soit il n'y en a pas, soit ils sont plus... Peut-être qu'il n'y en a pas, soit ils sont plus nombreux, mais... Plein. Oui, mais peut-être pas aussi visible. Vous dites les Bérus, ok. Vous dites dans la génération là, peut-être qu'il y en a plein. Hein. Je ne suis pas contre, mais.
Et. Je veux bien qu'on prenne les questions après si ça ne vous embête pas.
Ouais, t'as raison.
On peut la terminer, puis après.
Ça marche. Ce qui nous pose problème aussi, c'est dans cette troisième génération, la durée de la période, bah parce que nous, on la cible des années 90 à nos jours, ça fait vachement long pour une génération pour trouver une unité là-dedans. Il y a des scènes sans doute beaucoup plus éclatées, il y a des modalités encore plus diverses. Hein, si je reprends les scènes à Amiens, des gars qui ils sont 10, ils ont chacun 10 formations. Alors vas-y pour retrouver des unités aussi. Alors sans doute qu'ils ont quand même, évidemment, des valeurs partagées. Est-ce qu'il y a des leaders actifs et porte-parole qui se manifestent autrement que sur les scènes, qui ne seraient pas musiciens ? Donc on se revendiquerait. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis qu'il n'y a pas un consensus ou une unanimité aussi marquée, à mon sens. Et facultatif, voilà, Gérard Moget parlait d'événements fondateurs dans chaque génération. Et moi, je disais, est-ce qu'on peut identifier des événements fondateurs pour le punk, mais français ? Alors, le punk anglais, américain, il y en a peut-être des événements fondateurs. Évidemment qu'il y en a, on les connaît. Mais est-ce que punk français, je peux me tromper, moi, je dis, est-ce que j'identifierais pour certains le concert des Pistols au Chalet du Lac, même si on écoute Phil Manœuvre et puis d'autres encore, si on écoute les témoins qui étaient, ils étaient 3500 dans la salle, alors qu'en réalité, ils étaient 100, ceux qui étaient vraiment présents. Et est-ce que c'était le festival de Mont-de-Marsan, mais peut-être ces mêmes combats, parce qu'il y avait beaucoup d'Espagnols, il y avait beaucoup de mecs qui venaient d'ailleurs. Est-ce que la loi de Vaquer et puis l'assassinat de Malik Oussekine, voilà, ça, c'était un événement fondateur. Est-ce que ça, on peut considérer que c'est justement tous ces concerts qu'on a vus des BRU avec la jeunesse qui emmerde le Front National, c'est des événements fondateurs ? Pas sûr, parce que déjà, il y avait des choses à enclencher bien avant. Hein. Et puis, pour la troisième version, ça serait quoi ? Ça serait quoi, les événements fondateurs ? Donc, en conclusion, je pense que je suis beaucoup trop long, mais vous avez à peu près compris le propos. Non, je suis bon. Donc, simplement, si je peux conclure, une génération, en fait, elle se définit pas en elle-même, elle se définit souvent par rapport aux autres, par rapport à celles qui précèdent ou succèdent. Et c'est peut-être en ce sens qu'on peut comprendre la table ronde de Bordeaux, entre autres, hein, en partie. En quoi aussi les anciennes générations punk se définissent, les nouvelles se définissent par rapport aux anciennes. Donc voilà, je reviens là-dessus. Et simplement, voilà, c'est compliqué cette idée de génération, mais selon Moget, c'est vraiment délimité. C'est juste indiquer des regroupements possibles. Moi, je pense aussi que le concept d'unité de génération, il peut être peut-être plus porteur. On a encore d'autres notions que j'ai pas creusées ici, hein, génération pour soi, génération politique et ainsi de suite. Je les ai pas creusées parce que ça ferait vraiment trop touffu. Alors malgré tout, j'ai quand même quelques résultats que je pense exploiter à la façon de Samuel Etienne. Je pense que faire un état des lieux du punk en génération, ça sera impossible. Par contre, faire des monographies locales en disant voilà, sur ce lieu, c'est tel type de transmission de tes valeurs qui se joue, c'est comme ça, dans un autre lieu avec des monographies, et ben c'est autrement. Et puis à partir de là, on pourra, je pense, exploiter des données concrètes entre les lieux, les acteurs, les passeurs, qui sont les passeurs, comment se pratique le Dig and Write, le Do It Together, comment s'opèrent les échanges ou les conflits, et ainsi de suite. Donc je pense que ça, on peut venir. Et donc dernièrement, voilà, dans l'image des générations, René Tesch, qui je pense, je me demande s'il n'a pas 70 balais, là, le chanteur des deux Wendel Dembe à Metz, avec la génération, une génération, la vingtaine, on va dire. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, tu as posé des questions très intéressantes. C'est vrai que l'idée des valeurs de génération, ça pose des... Moi, je me pose des centaines de questions méthodologiques. Du coup, dès que tu abordes ces sujets, par contre, il faut qu'ils soient effectivement abordés comme tu le fais. C'est une très bonne optique, je pense. On prend les questions immédiatement, comme ça, on passe ensuite. C'est bien quand c'est frais.
Alors, vous noterez qu'il y a beaucoup de questions, ce qui veut dire que forcément, comme je n'ai pas les réponses, c'est peut-être vous qui allez m'amener des éléments de réponse. Ce qu'ont dit Luc et Solveig ce matin, et je suis d'accord, c'est que circoncire le punk, bah, plus on avance et plus c'est difficile.
Juste une question sur la transmission. Tu as parlé beaucoup des concerts. Je pense que les concerts jouent un rôle fondamental dans la transmission et dans ce qu'on recrée après avoir vu un concert. Tu n'as pas parlé de support, des cassettes, des disques et des répétitions même de groupes.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors par contre, deux choses, à la fois le support cassette et tout, bah, ça revenait à peu près à une question que j'ai posée ce matin à une table ronde à la transmission. Et effectivement, je ne l'ai pas évoqué, mais ça c'est vraiment important, y compris les fanzines hein, de Samuel et, qui participent aussi à cette diffusion, tout à fait. Et alors ça, c'est quelque chose que j'ai pas traité, mais effectivement, une donnée que j'ai pas prise en compte, mais qui émerge dans les tables rondes hein, la plupart du temps. Par contre, sur les répétitions. Alors justement, ça c'est quelque chose sur lequel nous on n'a pas focalisé. Je trouvais que c'était une thématique intéressante, et je pense que nous, sur Montpellier, on l'a entendu. Et après, je pense que ça pourrait être aussi pas forcément une thématique entière, mais ça pourrait rentrer dans une thématique cette répétition. Ouais. Parce que justement, j'ai une com bientôt qui va essayer de focaliser là-dessus. Et on l'a pas fait, mais c'est extrêmement important, ça, ouais. Alors, on l'a entendu sur Bordeaux, sur Montpellier aussi.
Oui, oui.
Et les transmissions de lieux, et les autres groupes qui venaient à plusieurs dans le même local et qui s'écoutaient, ainsi de suite. Et qui ramenaient aussi les copains-copines, assistés aux répètes, et ainsi de suite. Ça effectivement, tu as raison de le souligner. La cave, effectivement.
Ouais, tout Il y a un fait. Terrain clair à explorer, oui, effectivement.
Tout à fait.
Sur les lieux de... transmission, il y a aussi les disquaires.
Oui, ben, ça rentre dans la même...
Très marqué, quand je prends l'exemple de Rouen avec Mélodie Massacre, où on a vu quand même à partir des Dogs et ensuite la seconde génération qui se retrouvait dans un lieu centre-ville jusqu'en 84. Voilà, ça, et à partir de là, se sont créés un certain nombre de groupes. Il y avait les grands, enfin, les Dogs, et ensuite les petits, les plus jeunes qui côtoyaient les, entre guillemets, les stars, les Dogs, voilà. Ouais. Mais il y a aussi ces lieux. Et sur les locaux de répétition, anecdote personnelle, pour avoir été longtemps, enfin, quand j'avais plus ou moins jeune, ado, j'allais écouter le groupe de mon grand frère, qui jouait des Cramps, etc. Et j'ai appris à connaître cette musique-là, et ils m'ont transmis dans ces locaux de répétition, on fait une reprise des Cramps, on fait une reprise des Sonics, et ensuite tu vas écouter, etc. Et donc il y a une transmission, comme disait François, importante sur ces locaux.
Je suis d'accord, ça rentre dans la thématique. Et du coup, ça me permet de rebondir sur une de tes questions favorites avant que tu me la poses, qui est celle des radios, et que j'ai pas traité non plus, mais effectivement, les radios sont aussi un vecteur de transmission.
C'est vrai que c'était pas tant les modes de transmission que tu interrogeais, mais plus voir si ces valeurs se retrouvaient. Donc après, il faut interroger les modes. Et là, vous parlez tous des modes de transmission. Ça.
Merci pour cette modération impeccable.
Attends. Alors moi, j'avais une question.
Je te reprendrai.
La seule question que j'aurais à poser, en fait, c'est que le punk à 40 ans, est-ce qu'il n'a pas des problèmes de quarantenaire? Ça veut dire entre ce qu'il pensait être à 20 ans, être un rebelle, changer le monde et puis faire le tour du monde, et puis à 40 ans, avoir un boulot à la con, et puis avoir un crédit, et puis attendre que ça passe, quoi.
C'est une question qu'on a pas évoquée. On a déjà évoqué en réunion informelle, puis bah, Pierre l'a évoqué tout à l'heure, le punk issu des classes bourgeoises, aristocrates, qu'on évoque assez peu. Parce que parfois il existe. Hein. Et puis on n'a pas évoqué effectivement les carrières et les trajectoires. Alors dans les trajectoires, moi je pense qu'il y a du divers. Hein. Il y a des mecs qui se sont pas reniés et puis il y a des mecs qui sont rentrés dans le rang, quoi. Comme la chanson de Bijou. Alors vous allez dire que c'est pas punk, mais.
C'est quoi rentrer dans le rang ?
Tu veux t'acheter une bagnole, une jolie femme et un appartement. Tu n'as pas peur de travailler dur. Tu veux y arriver, tu sais pas comment. Et bientôt tu verras, tu seras comme tous les autres autour de toi. Qui vont aller travailler sans avoir revu le jour. Non, pas pour moi. Donc je te réponds, bah, le mec qui veut une bagnole, une jolie femme et un appartement. Et c'est le mainstream, c'est plus le... On vit différemment comme on a envie de vivre. On vit comme... Bon, j'étais pas dans le ton de Philippe Doga et Vincent Palmer, vous avez compris le propos.
Je voulais juste rajouter quelque chose au lieu de transmission dont Christophe a parlé et toi aussi. Et au fait, on doit considérer au fait à Paris, un lieu qui a été assez pérenne, c'était la miroiterie. Et au fait, les générations actuelles, on les voit. Et c'est Laurence qui les a appelés les enfants de la miroiterie. Et ça, c'est la génération actuelle qui est underground et qui a sa voix, mais c'est underground.
Mais voilà. Je te remercie, mais d'où l'intérêt...
Et je dirais qu'on est aux quatrième génération.
D'où l'intérêt, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que trois générations, ça fait pas beaucoup. Et d'où l'intérêt de faire des monographies, parce que ce qui se passe à la Miroiterie, peut-être que ça s'est passé ailleurs, mais peut-être qu'il y a d'autres lieux où, je pense, hein, d'après ce qui ressort des entretiens, où finalement il y a une coupure dans la transmission, pour des tas de raisons, hein, peut-être changement de lieu, changement de local, changement de passeur, le gars qui ou la fille qui veut transmettre, qui a ce désir à tout prix. Il y a pas mal de raisons qui vont expliquer que ça se fait pas et que par contre à la Miroiterie, eh ben, ça s'est perpétué.
Jean-Noël, tu voulais ou
non,
non
en fait, c'est bon. La dichotomie que tu ne pas être punk, c'est pas juste avoir un pavillon avec un chien, etc. Quoi.
Moi, je me considère pas comme punk, mais tu vois, la chemise à fleurs, machin. J'ai aussi une jolie femme, un appartement, comme dirait Bijou. Mais chérie, si tu m'entends, c'est bien. C'est sur mon audio. Mais je veux dire, on peut avoir une attitude néanmoins punk en ayant non. J'ai schématisé. Hein, j'étais vraiment comment je dirais. Mais je rapporte quand même les propos de ce que disent certains quand j'évoquais tout à l'heure, par exemple, le fait qu'on reproche à certains groupes de signer dans des majors ou le fait qu'on reproche à certains groupes de réussir, bah, ça rentre un peu là-dedans. C'est aussi ça, rentrer dans le rang. C'est mec, tu réussis, bah, t'es plus punk.
Donc si on quitte la subversivité, est-ce que c'est encore punk? C'est ça l'idée?
Oui, c'est une bonne remarque.
Je crois qu'il y avait une question de Manu également. Et puis peut-être après on va passer à sa communication. Exactement. Justement. Tu poses ta question. Prends-le.
Mais c'était pas une question qu'une nuance, du coup, que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, par rapport au Pogo et ce que Luc a dit très justement, qui s'était passé en fait pour revenir sur les sur Bordeaux, sur les événements qui s'étaient passés là-bas où on a eu des tensions assez fortes. On a parlé, le Pogo c'était un truc de bof parce que ce qu'il avait ce qu'avait dit un des acteurs que j'avais fait personnellement intervenir sur une table ronde. D'ailleurs, j'avais fait volontairement intervenir cette personne-là. Alors, je pensais pas que c'était aussi virulent, mais bon, c'était parce que je savais qu'il était très critique avec le mouvement punk. Il en était revenu déjà, alors qu'il était jeune, il a mon âge. Mais je voulais nuancer ça parce que, alors oui, on peut voir le punk du côté très aujourd'hui très normé où on est vegan, où comment dire, on est antisexiste, etc. Où on fait vachement gaffe à beaucoup d'attitudes et beaucoup de comportements. Et il y a des phénomènes de régulation qui sont très forts. Donc on peut le voir comme ça et on pourrait se dire l'ancienne génération et avoir un jugement de valeur là-dessus en se disant. C'est très aseptisé maintenant le punk aujourd'hui, mais à contrario, et ça fait référence aussi à un article qu'on a écrit, qu'on a coécrit avec Solveig et Luc, et qui parle aussi du coup du moche, mais aussi de tout ce qui est mosh pit, et du coup de cette pratique de la danse qui est liée à ce style de musique qui s'appelle, excusez-moi, le beatdown, qui est assez récent et avec des groupes comme Desolated, ce genre de truc qui est un groupe anglais. Où on s'est aperçu qu'il y avait un phénomène aussi où que la pratique de la danse était vachement plus violente, encore une fois, mais que plus justement elle était vachement plus violente, elle était encore plus encadrée en fait, et pas encadrée mais par des normes et par des phénomènes de régulation qui étaient informels. Donc voilà, c'était juste pour nuancer ce propos-là. C'est pas qu'on pogote plus, c'est que peut-être que il y a des formes de régulation qui sont peut-être plus visibles. Et que aussi, du coup, qui permettent aussi une façon de pogoter qui est peut-être plus violente aussi, quoi. Mais c'était juste à travers le pogo.
Tu fais bien, puisque t'es le spécialiste. Ah, spécialiste. Bah si.
Moi, j'ai jamais moché, perso, mais.
Et puis à chaque époque, sa subversivité, en fait. C'est vrai que quelqu'un qui a 40 ans se croyait subversif, il regarde ce qui se fait aujourd'hui, se dit, être vegan, c'est pas subversif. Ben, peut-être que ça l'est aujourd'hui. Alors, on va arrêter de se juger entre générations.